Bonjour à tous, je suis Patrick Sauce, éditorialiste international à BFM TV. Dans un épisode précédent, nous vous racontions comment les autorités russes préparent leurs réponses ou leurs justifications dans les situations les plus inattendues. Des communiqués ou des prises de parole qui nous paraissent souvent tirées par les cheveux, parfois totalement invraisemblables. Mais les Russes, eux, qu'en pensent-ils ? Arrivent-ils à démêler le sérieux du farfelu ? Bienvenue dans l'œil de Moscou. Et comme chaque semaine, nous sommes avec le correspondant de BFM TV à Moscou, Paul Gogo. Salut Paul.
Salut Patrick.
Vu d'ici, on voit que les déclarations des autorités russes nous paraissent toujours cousues de fil blanc, même dans des circonstances extrêmement dramatiques. Moi, je pense à l'attaque terroriste de Moscou le 22 mars dernier. C'était sûr, c'était couru d'avance. Le Kremlin allait trouver une piste ukrainienne. Eh bien, ça n'a pas manqué, malgré la revendication de l'État islamique. Ça, c'est mon logiciel de journaliste occidental. Lorsque les premières annonces, les premières pistes, les premières insinuations des autorités ont pris le chemin de la piste ukrainienne, qu'est-ce qu'en ont pensé les gens, les vrais gens, je dirais, en Russie ?
Alors, Bon, tu le sais, c'est dur de savoir ce que pensent les gens, tant les gens sont différents en Russie. Moi, à ce moment-là, je suis retourné sur le lieu de l'attentat, sur le crocus où des milliers de personnes venaient encore apporter des fleurs. Et la réaction principale des gens, c'était « mais on n'a pas envie de parler de ça, quoi. On n'a pas envie d'accuser l'Ukraine, on n'a pas envie de parler d'islamisme ou de problèmes de sécurité. »
C'est d'abord un drame.
C'est d'abord un drame, mais qui est un peu utilisé. C'est-à-dire qu'en France, je ne suis pas sûr qu'on m'aurait répondu de la même façon. Là, c'est comme au quotidien en Russie, parfois on me répond « Ah, mais pourquoi moi ?» Je leur pose une question politique et ils me disent « Mais pourquoi moi ?» Comme si je les agressais et que je les mettais dans une situation embarrassante. Bon, bah là, le drame, c'est la bonne excuse pour dire ça comme ça, pour ne pas répondre à la question. Voilà, je suis dans l'émotion, j'ai pas envie de parler de politique ou de dénoncer des choses. Ensuite, alors c'est intéressant parce que, tu sais, à Paris, à Moscou, on a un chat entre correspondants français. Et donc, on se tient au courant de nos reportages, on te raconte nos reportages. Et on a tous fait cette espèce de micro-trottoir. Et ce qui est drôle, c'est qu'on n'a pas ramené la même chose. Parce que moi, je rentre dans mon micro-trottoir et je leur dis, vraiment, je trouve ça fou, il y a quand même plein de gens qui adhèrent à la thèse ukrainienne. C'est assez décourageant. Et les collègues me disent, mais nous, on n'a pas du tout eu ça. Moi, j'ai plutôt eu des gens très modérés, des gens... qui refuse ce que je disais, d'accuser l'Ukraine, de pointer des responsabilités. Mais en tout cas, ce n'est pas gagné d'avance pour le Kremlin, quoi, ce discours. Bon, alors, les différences qu'on peut avoir en reportage, elles sont, je pense, avant tout dues à la façon dont on travaille. Moi, je travaille tout seul avec mon accent français, je suis journaliste étranger. J'ai des collègues qui ont des traducteurs russes et donc qui posent des questions en russe, ils tendent le micro discrètement et puis les gens répondent peut-être pas exactement de la même façon. Mais en tout cas, c'est intéressant c'est un énième rappel que les choses ne sont pas gagnées d'avance quand la Russie, le Kremlin, du coup, veut imposer un narratif. Et bien, il faut construire tout ce qu'il y a autour du narratif. C'est pas magique, les gens y adhèrent pas tout de suite. Et je dirais, moi j'ai aussi le souvenir, je préciserai, le souvenir de la mort d'Evgeny Prigogine, l'ancien responsable de la milice Wagner, où j'étais allé voir, il se trouve que j'étais en reportage dans le sud de la Russie, et que la veille j'étais passé devant un garage automobile et les mecs avaient mis des drapeaux de Wagner partout sur leur garage. Cool, le lendemain de la mort, je me dis, il faut que je retourne dans ce garage, il faut que j'aille parler à ces gens-là, savoir ce qu'ils en pensent.
Le fan club.
Voilà, c'était le fan club local d'Evgeny Prigogine et de Wagner. Et donc, j'y vais directement en leur disant, quand même, ça vous fait pas rien que Poutine, il tue votre idole, là. Et j'ai, en gros, dans leur réponse, ils ont insinué qu'ils comprenaient bien ce qui se passait, qu'ils comprenaient bien qui était derrière tout ça, mais que c'était pas, voilà, qu'ils avaient juste pas envie d'en parler, d'accuser Poutine. Que l'essentiel n'était pas là, qu'ils regrettent... En gros, ils arrivaient à regretter la mort d'Evgeny Prigogine sans être en colère contre Vladimir Poutine. Ils étaient un peu critiques envers Vladimir Poutine, les mêmes critiques qu'Evgeny Prigogine avait, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Et donc, de manière générale, j'ai l'impression que c'est comme ça. Quand il se passe un grand événement, eh bien, les Russes sont conscients certainement qu'on leur ment, qu'on leur raconte n'importe quoi, mais on ne veut pas se mêler tout ça, on ne veut pas avoir de problème.
Alors ça, c'est le narratif lorsqu'il y a un événement ou, j'irais, une rupture dans le récit. Mais le récit en lui-même, il comprend des mots, des tournures de phrases et même de l'idéologie, parfois totalement folle, dramatique aussi, lorsqu'on connaît, par exemple, et je vais venir dessus, la cause LGBT en Russie, où les personnes homosexuelles, trans, LGBT+, sont extrêmement malmenées, sont terrorisées. Lorsque Vladimir Poutine, Medvedev, Peskov, je ne vais pas tous les nommer, parlent de cet Ouest gay, perverti, pervers, qu'il faut absolument raser. Comment c'est appréhendé par les gens ?
Il faut, je pense, considérer que, donc, par exemple, Soloviev, qui est certainement une des voix les plus radicales...
Le présentateur star de Rossiya Adine, la chaîne numéro 1 en
Voilà, Russie. Il a son émission hebdomadaire, il me semble, sur cette chaîne. Il a aussi sa propre chaîne, Soloviev Live, parce qu'il est aussi à la radio. Et donc, il fait des émissions filmées à la radio, dans lesquelles il est encore plus en roue libre qu'à la télévision. Et c'est d'ailleurs souvent ces images-là, finalement, qui ressortent qui arrive en tout cas jusqu'en Occident, il faut comprendre que c'est à la limite, ce monsieur-là, il est presque comme Prigogine dans sa critique du pouvoir sans critiquer le pouvoir, dans sa radicalité, on va dire. Et donc, il attire un peu le même type de personnes, des gens à qui à cette cause, des gens qui sont profondément anti-américains, des gens qui sont convaincus de vivre dans une citadelle assiégée. Et lui, il répond aux besoins de ces gens-là. Ça me fait penser à une chaîne d'infos en continu qu'on a en France qui, en fait, parle à des gens qui veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ça ne va pas plus loin que ça. On n'en ressort pas forcément grandi de cette chaîne. Je parle d'une chaîne d'information continue française. Et en fait, ça fonctionne un peu comme ça en Russie. Donc, je pense que les Russes voient que ce sont des outrances, que ça va trop loin, que ce sont des propos radicaux. Et en même temps...
Pardon de mettre les pieds dans le plat. Est-ce que le Russe est xénophobe ? Est-ce que le Russe est homophobe ? Est-ce que le Russe est raciste, comme on pourrait le sentir en écoutant ces paroles-là ?
Eh bien, c'est ça le truc, c'est que Soloviev, il sait aussi à qui il s'adresse, il connaît sa population. Et quand il va tenir des discours homophobes, la Russie est un pays profondément homophobe. Enfin, il y a eu zéro éducation à l'homosexualité... dans l'histoire de la Russie, enfin, c'est quelque chose, c'est de l'homophobie, la base de l'homophobie, quoi. C'est un manque de culture sur le sujet, de compréhension, et même du coup, ça fait naître de la crainte. Et c'est comme ça qu'apparaît l'homophobie, comme la xénophobie d'ailleurs en Russie. Et donc, il parle à une partie de la population qui, malheureusement, à mon avis, est assez conséquente en Russie, qui partage ce besoin de se protéger des valeurs de l'Ouest, comme on le présente en Russie, et qui est quasiment devenue l'idéologie de Vladimir Poutine, d'ailleurs, aujourd'hui, puisque la guerre en Ukraine se justifie quasiment maintenant par le besoin de se protéger des LGBT européens, de la gay Europe, comme on dit en Russie.
Alors, il y a la gay Europe et il y a l'Ukraine nazie. Ça, c'est pareil, alors qu'on est en train de s'approcher du 9 mai, de la victoire dans la grande guerre patriotique, qui a tout un récit qui est en train d'être totalement remodelé 80 ans après. Le côté Ukraine et nazi, ça fonctionne au-delà de ce qui a pu se passer avec Bandera à une époque.
C'est compliqué parce que à l'origine, les Ukrainiens, enfin, les Russes te disent, les Ukrainiens, ce sont nos frères, donc évidemment, ce sont pas des nazis. Donc il y a un côté, il y a une grande partie de la population qui va te dire, mais sans, c'est flou, la propagande rend les choses floues, donc sans te le dire avec précision, elle va t'expliquer que il y a au moins le pouvoir ukrainien qui est néo-nazi. Ce qui nécessite déjà une gymnastique, parce que Vladimir Zelensky est lui-même juif, donc ça paraît anecdotique, mais ça n'a pas été si simple à faire accepter aux Russes et à expliquer aux Russes. Et c'est pour ça qu'on en arrive avec des discours incroyables comme Sergueï Lavrov qui dit que Zelensky n'est pas un juif comme les autres, enfin, des sous-entendus assez terribles.
Ah bah lorsqu'on veut tenir sa ligne, oui.
Il faut y aller jusqu'au bout.
C'est ça, mais il faut être flexible sur l'histoire, voire sur ses propres contradictions.
Exactement. Et donc les Russes ont besoin d'être convaincus. Donc il y a le pouvoir, il y a la population qui serait victime de ce pouvoir. Ce pouvoir lui-même, il serait manipulé par les États-Unis. Et les soldats sur le front, c'est là que c'est pas très clair et que c'est difficile pour la propagande parce qu'ils savent très bien que ce sont beaucoup de civils qui s'engagent dans l'armée pour défendre leur pays. Et donc, comment les considérer comme des néo-nazis, ça reste compliqué, mais au bout du compte, on leur explique que ce sont des victimes d'un pouvoir néo-nazi ou des collaborateurs d'un pouvoir néo-nazi manipulés par les États-Unis. Et c'est là qu'on en arrive à ces discours assez violents qu'on retrouve dans les médias russes qui consistent à expliquer qu'il faut rééduquer les Ukrainiens, qu'il faut leur donner des leçons, qu'il faut s'attaquer à leurs infrastructures civiles, énergétiques, enfin voilà, qu'il y a une opération spéciale à mener en Ukraine. Et toute cette justification se construit comme ça. Et je le précise, c'est pas que des mots, c'est une question de temps aussi. C'est depuis 2014 quand même qu'on explique aux Russes que les Ukrainiens sont nazis. À chaque journaux, moi, je regardais très souvent l'équivalent du 20h de la première chaîne russe. Chaque journal, on explique que Zelensky, c'est un clown, et que les Ukrainiens, parce que ancien comédien, et que les Ukrainiens sont des néo-nazis. Donc, il y a un moment où le message y rentre. Voilà, vous le mettez à côté, enfin, vous montrez des images de gens tués dans le Donbass à côté, vous créez des causes, des conséquences. Et au bout de 10 ans de guerre, 8 ans au moment du lancement de l'offensive en 2022, eh bien oui, des choses ont infusé.
Justement, le 20h, comme tu dis, ou Soloviev, son émission sur Russie 1, Russia Adin. Tu as vu, je me charge d'avoir mon meilleur accent russo-français. On avait vu un certain nombre d'articles au début de cette opération militaire spéciale, la guerre d'agression russe en Ukraine, que les audiences s'effondraient. Mais c'est une analyse très compliquée, il n'y a pas véritablement de médias maîtrise indépendant en Russie. Le fait est que les audiences, elles se sont peut-être effondrées au début, mais soit parce qu'il y a une vraie volonté de s'informer devant Russia Adin, ou parce que, faute de mieux, et parce que les Russes aiment encore regarder la télé, bah, finalement, les audiences, elles sont revenues.
Oui, alors c'est un mélange de plein de choses. Déjà, moi, en reportage, il y a un truc qui me frappe, c'est que quand on est très loin de Moscou, dans des villages éloignés de Moscou, eh bien, c'est encore la télévision qui fait le lien avec la capitale. Et c'est encore, comme quasiment au temps de Staline, mais par la radio, c'est... voilà, Poutine arrive à parler exactement de la même façon à toute la Russie via la télévision. Donc ça reste une référence. C'est-à-dire que quand un discours de Poutine est annoncé, si c'est un discours stratégique dans un moment important, je pense que quand même beaucoup de Russes vont se dire « je vais le regarder parce que c'est là que vous avez le lien avec votre capitale ». Il ne faut pas l'oublier, la capitale, elle peut être très très loin quand vous vivez en Russie. Donc il y a de ça. Ensuite, le Kremlin avait visiblement prévu sa gestion médiatique des choses quand la guerre a commencé en 2022. Et très rapidement, on a fait sauter quasiment toutes les émissions de divertissement, qui sont à peu près les mêmes que celles qu'on a en France l'après-midi sur les grandes chaînes. Et pour doubler, voire tripler la longueur des émissions de débat, celles dont on voit parfois des extraits dans nos médias, parce que voilà, après des heures et des heures d'antenne où on vous pousse et de plus en plus radical, il y a un moment où vous expliquez que vous avez envie de lancer des bombes nucléaires sur les Français, les Anglais ou les Américains, donc ça finit toujours comme ça dans leurs débats. Ces discussions-là, je pense que quand la guerre a commencé, elles étaient très angoissantes pour les Russes. C'est aussi une période où les Russes, de toute façon, étaient très nombreux à tourner le dos à la guerre, à ne pas vouloir en entendre parler et à se dire « c'est une question politique, on les laisse se débrouiller avec ça au Kremlin ». Donc je pense que c'est pour ça que les audiences ont baissé. Là, maintenant, on est dans un schéma totalement différent. Maintenant, la guerre, elle est acceptée. On explique aux Russes que la guerre allait durer très longtemps, qu'il faut se mobiliser. Et je pense qu'il y a une vraie volonté, un besoin d'être informé pour les Russes aujourd'hui sur ce qui se passe sur le front, partout dans le monde. Les élections américaines, je pense que les Russes vont s'y intéresser énormément. Et donc, je pense que c'est ce qui explique le fait que les audiences soient remontées un petit peu depuis. Et aussi parce qu'on a un peu rechangé les grilles quand même. Il y a un peu de culture, d'émissions de divertissement qui ont été réintégrées dans voilà.
Une espèce de normalité et d'intégration, comme tu viens de le dire, de l'idée que bien, cette guerre allait durer et que finalement, on pouvait continuer le business comme avant. Est-ce que tout de même... on ne va pas se lancer dans une analyse des médias, mais rappelons-le, la télévision, et je le dis avec beaucoup d'humilité, moi qui passe mon temps sur les plateaux de BFM TV et sur le terrain, c'est d'abord un média, j'irais passif, c'est-à-dire que personne ne reste prostré sur son fauteuil à écouter. Il faut, c'est notre rôle, de justement capter l'attention. Mais forcément, les gens font toujours autre chose. Et notamment dans les émissions du soir, où il y a une dimension véritablement d'information, comme tu l'as dit, mais aussi un petit peu de spectacle. Comment les Russes regardent, par exemple, tu parlais de la bombe nucléaire, un animateur qui, très sérieusement, devant sa grande carte, va indiquer qu'en 2 minutes, un missile intercontinental peut toucher Paris.
Déjà, je pense que beaucoup d'auditeurs voient à peu près à quoi ressemblent ces émissions parce qu'on en montre des extraits souvent. Et vous voyez, ce sont ces plateaux télé bleus, des grands plateaux dans lesquels tout le monde est debout, sur lesquels tout le monde est debout, derrière des pupitres, avec ce présentateur qui se déplace partout sur le plateau. Il va attraper les gens, leur pose des questions. Puis ils essaient de faire en sorte de se disputer un moment parce qu'ils sont tous d'accord. Et c'est vite embêtant, une émission de débat dans laquelle tout le monde est d'accord. Et donc, c'est un peu... on essaie d'être de plus en plus radical au fur et à mesure que l'émission avance. Donc, comme on disait, il y a un moment, on en arrive à parler nucléaire ou à insulter tel ou tel peuple.
Oui, mais ça entraîne un haussement d'épaule, je pense, à la famille russe dans son canapé qui est en train de dîner.
Effectivement, mais je l'ai aussi beaucoup vu en reportage, mais c'est ce que tu disais, c'est un peu la même chose en France. Vous rentrez dans des salons, des fois, la télé, elle est allumée, vous n'écoutez pas trop. Moi, ça tilte parce que j'entends Zelensky, terroriste, américain, néo-nazi. Enfin, j'entends des mots-clés. Donc moi, je tilte et je regarde les gens. Des fois, je me demande si eux réagissent encore à tout ça. Alors, j'avais une fois... j'étais allé voir une famille au fin fond de l'Arctique, à côté de là où Alexei Navalny était emprisonné. Et je me rappelle qu'un des enfants, il avait quoi, une dizaine d'années, était venu me servir. Je lui avais dit « Mais tu regardes la télévision, ça t'intéresse ?» Non. Et puis derrière, il me sert le discours exact de Soloviov, quoi. Les États-Unis sont nos ennemis, il va falloir qu'on soit prêt à aller mourir pour la patrie. Enfin, quelque chose d'assez glaçant, finalement. Et la télévision, elle était juste là, en haut, dans un angle avec cuisine, au-dessus du frigo, allumée toute la journée. Donc, c'est ce que tu disais, ça se passe certainement souvent comme
ça en France.
Comme
le café, une extraction douce ou une infusion pour le thé. On le rappelle, c'est un pays où la liberté des médias n'existe pas. Vladimir Poutine a fait fermer toutes les chaînes, tous les médias d'opposition. L'idée me vient, et cette image, c'est celle de l'affiche du film Le Parrain de Coppola, avec la main du marionnettiste qui tire les fils. Est-ce que... on a cette idée chez Vladimir Poutine du marionnettiste qui tire toutes les ficelles jusqu'à faire rentrer toutes ses idées dans la tête d'un enfant de 10 ans qui pourtant ne regarde pas directement la télé.
Oui, alors c'est un long processus. Je sais, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans ces chaînes de télé et qui parlent, qui reçoivent plus que des éléments de langage du Kremlin dans les médias d'État. C'est des consignes. Et à chaque grand événement, des fois, il faut attendre plusieurs heures, voire une demi-journée avant que les télévisions réagissent parce qu'ils attendent que les techniciens, en gros, qui sont à côté de Vladimir Poutine, aient décidé de comment les choses allaient être présentées sur le long terme. Donc, ça prend du temps. Une fois que tout ça s'est décidé, c'est diffusé dans tout le pays. Et comme, effectivement, ce n'est pas une démocratie avec des médias libres et qu'il se passe des choses généralement assez terribles en Russie, eh bien, les gens peuvent, par exemple, être dans un climat de peur ou de terreur. C'est le cas après les attentats, c'est le cas depuis le début de la guerre. Et donc, il y a un besoin de comprendre ce qui se passe. Et comme tout est incompréhensible parce que vous n'avez pas d'explication, vous n'avez pas accès à des informations, à des faits vérifiés, eh bien la propagande, elle est là pour vous servir une explication sur un plateau. Donc ça peut parler à des gens. Et elle est conçue comme ça, la propagande, parce que des fois, pour un même événement, on va vous expliquer les choses de plusieurs façons différentes, des théories qui se contredisent totalement. Mais en fait, c'est à vous de choisir à laquelle vous voulez adhérer. Et c'est comme ça que ça marche dans la Russie d'aujourd'hui. Pour autant, il y a un truc qui me fascine, c'est que je tombe souvent sur des Russes qui me disent « Mais on les connaît, nos médias, c'est de la propagande, ils racontent n'importe quoi, faut pas les croire. » Et ça arrive très souvent qu'on me dise ça en reportage, par des gens qui regardent visiblement, je pense, quand même ces médias-là et qui vont quand même aller voter Poutine derrière. Donc ça, c'est encore une part du mystère que j'essaie de comprendre dans la société russe. Je te vois réagir. Je pense qu'il y a peut-être, ça doit exister aussi dans la société française, en fait, ce genre de réaction.
Ah, alors des gens qui te disent qu'ils détestent BFM TV, ça fait 15 ans qu'ils regardent BFM TV et vraiment, ils détestent ça. Oui, je connais. C'est valable pour un certain nombre de médias. Le fait est que nous, sur notre télécommande, on a tous les boutons qu'il faut pour changer de chaîne et revenir ensuite sur BFM TV. ce qui n'est pas le cas en Russie. Vrai. Après, encore une fois, faute de mieux, c'est difficile. Il y a donc, ce que je comprends aussi, une volonté très forte pour les Russes de s'informer.
Oui. Oui, oui, parce que...
C'est pas encore une fois le peuple amorphe qu'on pourrait décrire de loin si on n'a pas mis les pieds en Russie.
Non, non, c'est ça, parce que pour aller au bout de ce que je disais, en fait, ils vont vous expliquer que leurs médias sont pas très sérieux, que ils sont... Alors, il y a quelque chose qu'il faut préciser, les médias russes, ils donnent jamais la parole aux Russes, en fait. Vous voyez jamais vraiment des interviews sur le terrain. Alors, ouais, c'est ça, il y a une inondation chez vous, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. Non, c'est trop dangereux. Et le premier Russe que vous rencontrez, le premier truc qu'il dirait, ce serait une critique de Poutine indiffusable à l'antenne. Donc on ne donne pas la parole aux Russes. Donc c'est sûr que chaque Russe a eu une situation, un petit conflit local et va vous dire, bah là, quand ils ont voulu construire un terrain pour mettre les poubelles de Moscou, nous on s'est mobilisés, les seuls qui sont venus c'est les journalistes étrangers, on n'a vu aucun journaliste russe. Voilà, on sait comment fonctionnent nos médias, quoi. Mais en attendant, ça reste une source officielle de leur point de vue, et donc un peu fiable quand même dans leur esprit. Et puis surtout, ils sont convaincus que tous les médias du monde travaillent et fonctionnent comme leurs propres médias. Et donc pour eux, c'est une propagande contre une autre. Si on parle de la guerre en Ukraine, un média français va dénoncer un crime de guerre russe à un endroit, les Russes vont dire que c'est un crime de guerre ukrainien, et bien le Russe, il va se dire 50-50, c'est deux propagandes qui s'affrontent. Et je vais peut-être plutôt préférer soutenir ma propagande parce que c'est celle qui défend mes intérêts, puisque c'est celle de mon pays qui vient du pouvoir qui est censé me protéger. Donc on en arrive généralement à cette espèce de voie sans issue qui fait qu'au bout du compte, la propagande semble quand même gagner la bataille.
Et c'est ça qui est un peu terrible, je crois, à chaque fin d'épisode, lorsque je t'écoute, Paul, je me dis toujours, mais en fait, il n'y a pas d'issue. C'est le cas aussi là-dessus ou pas?
À chaque fin de reportage, moi, c'est ce que je me dis. C'est ce qui fait partie. Alors, tu touches à quelque chose de pour le coup très personnel quand tu es correspondant en Russie aujourd'hui. Et je peux pas parler au nom des autres correspondants, mais je sais que c'est aussi le cas des autres correspondants. C'est quelque chose d'assez dur à vivre parce que des fois on rentre désespéré d'un reportage en se disant, mais il y a rien qui va dans le bon sens, il y a rien qui peut s'arranger avec cette façon de voir les choses, avec cette incapacité à voir les choses différemment, mais parce qu'on empêche les Russes de voir les choses différemment, leur incapacité à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un critique du pouvoir, et en fait, il ne va pas trop le dire parce qu'il est convaincu qu'il est tout seul à être critique du pouvoir, parce que tout est conçu en Russie pour que vous pensiez que vous êtes le seul à vous plaindre. Et le dernier résultat créé par Vladimir Poutine lui-même à sa propre élection présidentielle semble montrer ça, que tout le monde est derrière lui. Et vous, vous dites alors, moi j'étais plutôt critique, mais visiblement je suis le seul, donc dans le doute, je vais me taire. Donc tout ça est très désespérant à chaque fois.
Je crois que le côté irréversible des choses, c'est le pire des sentiments lorsqu'on quitte un reportage et qu'on termine une mission. Et il y a quelque chose d'irréversible aussi, c'est la propagande qui va revenir pour un tour. On s'en rapproche le 9 mai prochain avec cette parade. On sait qu'il y aura des limitations dans plusieurs zones de Russie, notamment la parade du régiment des Immortels qui n'aura pas lieu dans un certain nombre de régions, mais... N'allons pas trop vite, on aura deux épisodes d'ici le 9 mai pour en parler. Merci encore Paul pour ton éclairage sur ce côté encore une fois irréversible des choses. Mais les Russes, on le sent, ont quand même un petit décodeur et ils essayent de faire le marché. Et surtout, le plus important, ils ont envie de s'informer. À la semaine prochaine Paul. Et d'ici là, eh bien, vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast original sur bfmtv.com, BFM Radio et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt.